chapitre 5, des circonstances qui ont accompagné le premier retour de la maison de Bourbon en 1814. Lorsque le retour des Bourbons fut décidé par les puissances européennes, M. de Talleyrand mit en avant le principe de la légitimité pour servir de point de ralliement au nouvel esprit de parti qui devait régner en France. Certainement, on ne saurait trop le répéter. L'hérédité du trône est une excellente garantie de repos et de bonheur. Mais, comme les Turcs jouissent aussi de cet avantage, il y a lieu de penser qu'il faut encore quelques autres conditions pour assurer le bien d'un État. D'ailleurs, rien n'est plus funeste dans un temps de crise que ces mots d'ordre qui dispensent la plupart des hommes de raisonner. Si les révolutionnaires avaient proclamé non l'égalité seule, mais l'égalité devant la loi, ce développement eût suffi pour faire naître quelques réflexions dans les têtes. Il en est ainsi de la légitimité, si l'on y joint la nécessité des limites du pouvoir. Mais l'une et l'autre de ces paroles sans restriction, égalité ou légitimité, ne sont bonnes qu'à justifier les sentinelles lorsqu'elles tirent sur ceux qui ne répondent pas tout d'abord au cri de « qui vive » comme il le faut selon le temps. Le Sénat fut indiqué par M. de Talleyrand pour faire les fonctions de représentant de la France dans cette circonstance solennelle. Ce Sénat pouvait-il s'en attribuer le droit? Est-ce qu'il n'avait pas légalement? Le méritait-il par sa conduite passée? Puisqu'on n'avait pas le temps de convoquer des députés envoyés par les départements, ne fallait-il pas au moins appeler le corps législatif? Cette assemblée avait montré du caractère dans la dernière époque du règne de Bonaparte, et la nomination de ses membres appartenait un peu plus à la France elle-même. Enfin, le Sénat prononça la déchéance de ce même Napoléon, auquel il devait son existence. La déchéance fut motivée sur des principes de liberté. Que n'avaient-ils été reconnus avant l'entrée des Alliés en France? Les sénateurs étaient sans force alors, dira-t-on. L'armée pouvait tout. Il y a des circonstances, on doit en convenir, où les hommes les plus courageux n'ont aucun moyen de se montrer activement. Mais il n'en existe aucune qui puisse obliger à rien faire de contraire à sa conscience. La noble minorité du Sénat, Cabanis, Tracy, Langevinet, Boissy d'Anglas, Volney, Collot, Cholet, etc., avait bien prouvé depuis quelques années qu'une résistance passive était possible. Les sénateurs, parmi lesquels il y avait plusieurs membres de la Convention, demandèrent le retour de l'ancienne dynastie. Et M. de Talleyrand s'est vanté dans cette occasion d'avoir fait crier « Vive le roi !» à ceux qui avaient voté la mort de son frère. Mais que pouvait-on attendre de ce tour d'adresse? Et n'y aurait-il pas eu plus de dignité à ne pas mêler ces hommes dans une telle délibération? Faut-il tromper même des coupables? Et s'ils sont assez courbés par la servitude pour tendre la tête à la proscription, à quoi bon se servir d'eux? Enfin, ce fut encore ce Sénat qui rédigea la constitution que l'on devait présenter à l'acceptation de Louis XVIII. Et dans ces articles si essentiels à la liberté de la France, M. de Talleyrand, tout puissant alors, laissa mettre la plus ridicule des conditions, celle qui devait infirmer toutes les autres. Les sénateurs se déclarèrent héréditaires et leurs pensions avec eux. Certes que des hommes haïs et ruinés s'efforcent maladroitement d'assurer leur existence, cela se conçoit. Mais M. de Talleyrand devait-il le souffrir? Mais ne doit-on pas conclure de cette négligence apparente qu'un homme aussi pénétrant voulait déjà plaire aux royalistes non constitutionnels, en laissant altérer dans l'opinion le respect que méritaient d'ailleurs les principes énoncés dans la déclaration du Sénat. C'était faciliter au roi le moyen de dédaigner cette déclaration et de revenir sans aucun genre d'engagement préalable. Monsieur de Talleyrand se flattait alors que pour tant de complaisance, il échapperait à l'implacable ressentiment de l'esprit de parti. Avait-il eu, pendant toute sa vie, assez de fidélité, en fait de reconnaissance, pour imaginer qu'on n'en manquerait jamais envers lui? Espérait-il échapper seul au naufrage de son parti, quand toute l'histoire nous apprend qu'il est des haines politiques à jamais irréconciliables? Les hommes à préjugés, dans toute réformation, ne pardonnent point à ceux qui ont participé de quelque manière aux idées nouvelles. Aucune pénitence, aucune quarantaine ne peut les rassurer à cet égard. Ils se servent des individus qui abjurent. Mais si ces prétendus convertis veulent retenir quelques demi-principes dans quelques petites circonstances, la fureur se ranime aussitôt contre eux. Les partisans de l'ancien régime considèrent ceux du gouvernement représentatif comme en état de révolte à l'égard du pouvoir légitime et absolu. Que signifie donc, aux yeux de ces royalistes non constitutionnels, les services que les anciens amis de la Révolution peuvent rendre à leur cause? Un commencement d'expiation et rien de plus. Et comment M. de Talleyrand n'a-t-il pas senti que, pour l'intérêt du roi comme pour celui de la France, il fallait qu'un pacte constitutionnel tranquillisât les esprits, affermît le trône et présentât la nation française aux yeux de toute l'Europe, non comme des rebelles qui demandent grâce, mais comme des citoyens qui se lient à leur chef suprême par des devoirs réciproques? Louis XVIII revint sans avoir reconnu la nécessité de ce pacte. Mais, étant personnellement un homme d'un esprit très éclairé, et dont les idées s'étendaient au-delà du cercle des cours, il y suppléa en quelque manière par sa déclaration du 2 mai, datée de Saint-Ouen. Il accordait ce que l'on désirait qu'il acceptât. Mais enfin, cette déclaration, supérieure à la charte constitutionnelle sous le rapport des intérêts de la liberté, était si bien conçue qu'elle satisfit momentanément les esprits. On put espérer alors l'heureuse réunion de la légitimité dans le souverain et de la légalité dans les institutions. Le même roi pouvait être Charles II par ses droits héréditaires et Guillaume III par sa volonté éclairée. La paix semblait conclue entre les parties. L'existence de courtisans était laissée à ceux qui sont faits pour elle. On plaçait dans la chambre des pairs les noms illustrés par l'histoire et les hommes de mérite du temps présent. Enfin, la nation dut croire qu'elle réparerait ses malheurs en tournant vers l'émulation de la liberté constitutionnelle l'activité dévorante qu'il avait consumée elle-même aussi bien que l'Europe. Deux seuls dangers pouvaient anéantir toutes ces espérances. L'un, si le système constitutionnel n'était pas suivi par l'administration avec force et sincérité. L'autre, si le congrès de Vienne laissait Bonaparte à l'île d'Elbe en présence de l'armée française. C'était un glaive suspendu sur le trône des Bourbons. Napoléon, en combattant jusqu'au dernier instant contre les étrangers, s'était mieux placé dans l'opinion des Français, et peut-être alors avait-il plus de partisans sincères que pendant sa prospérité désordonnée. Il fallait donc, pour que la restauration se maintînt, que d'une part les Bourbons pussent triompher des souvenirs de la victoire par les garanties de la liberté, et que, de l'autre, Bonaparte ne fût pas établi à 30 lieues de ses anciens soldats. jamais une plus grande faute ne pouvait être commise relativement à la France. Chapitre 6. De l'aspect de la France et de Paris pendant la première occupation. On aurait grand tort de s'étonner de la douleur que les Français ont éprouvée en voyant leur célèbre capitale envahie en 1814 par les armées étrangères. Les souverains qui s'en étaient rendus les maîtres se conduisirent alors avec l'équité la plus parfaite. Mais c'est un cruel malheur pour une nation que d'avoir même à se louer des étrangers, puisque c'est une preuve que son sort dépend d'eux. Les armées françaises, il est vrai, étaient entrées plusieurs fois dans presque toutes les capitales de l'Europe. Mais aucune de ces villes n'avait une aussi grande importance pour le pays dont elles faisaient partie que Paris pour la France. Les monuments des beaux-arts, les souvenirs des hommes de génie, l'éclat de la société, tout contribuait à faire de Paris le foyer de la civilisation continentale. Pour la première fois, depuis que Paris occupait un tel rang dans le monde, les drapeaux de l'étranger flottaient sur ses remparts. Naguère, la voûte des Invalides était tapissée des étendards conquis dans 40 batailles. Et maintenant, les bannières de la France ne pouvaient se montrer que sous les ordres de ses conquérants. Je n'ai pas affaibli, je crois, dans cet ouvrage, le tableau des fautes qui ont amené les Français à cet état déplorable. Mais plus ils en souffraient, et plus ils étaient dignes d'estime. La meilleure manière de juger des sentiments qui agitent les grandes masses, c'est de consulter ses propres impressions. On est sûr de deviner, d'après ce qu'on éprouve soi-même, ce que la multitude ressentira. Et c'est ainsi que les hommes d'une imagination forte peuvent prévoir les mouvements populaires dont une nation est menacée. Après 10 ans d'exil, j'abordais à Calais, et je comptais sur un grand plaisir en revoyant ce beau pays de France que j'avais tant regretté. Mes sensations furent tout autres que celles que j'attendais. Les premiers hommes que j'aperçus sur la rive portaient l'uniforme prussien. Ils étaient les maîtres de la ville. Ils en avaient acquis le droit par la conquête. Mais ils me semblaient assister à l'établissement du règne féodal, tel que les anciens historiens le décrivent, lorsque les habitants du pays n'étaient là que pour cultiver la terre dont les guerriers de la Germanie devaient recueillir les fruits. Ô France ! Ô France ! Il fallait un tyran étranger pour vous réduire à cet état. Un souverain français, quel qu'il fût, vous aurait trop aimé pour jamais vous y exposer. Je continuai ma route, le cœur toujours souffrant par la même pensée. En approchant de Paris, les Allemands, les Russes, les Cosaques, les Basquirs s'offrirent à mes yeux de toutes parts. Ils étaient campés autour de l'église de Saint-Denis, où la cendre des rois de France repose. La discipline commandée par les chefs de ces soldats empêchait qu'ils ne fissent aucun mal à personne, aucun mal, excepté l'oppression de l'âme, qu'il était impossible de ne pas ressentir. Enfin, je rentrai dans cette ville où se sont passés les jours les plus heureux et les plus brillants de ma vie, comme si j'eusse fait un rêve pénible. Étais-je en Allemagne ou en Russie? Avait-on imité les rues et les places de la capitale de la France pour en retracer les souvenirs alors qu'elle n'existait plus? Enfin, tout était troublé en moi, car, malgré l'âpreté de ma peine, j'estimais les étrangers d'avoir secoué le joug. Je les admirais sans restriction à cette époque, mais voir Paris occupé par eux, les Tuileries, le Louvre, gardés par des troupes venues des confins de l'Asie, à qui notre langue, notre histoire, nos grands hommes, tout était moins connu que le dernier camp de Tartarie. C'était une douleur insupportable. Si telle était mon impression à moi qui n'aurait pu revenir en France sous le règne de Bonaparte? Quelle devait être celle de ces guerriers couverts de blessures, d'autant plus fiers de leur gloire militaire qu'ils ne pouvaient depuis longtemps en réclamer une autre pour la France? Quelques jours après mon arrivée, je voulus aller à l'opéra. Plusieurs fois dans mon exil, je m'étais retracé cette fête journalière de Paris, comme plus gracieuse et plus brillante encore que toutes les pompes extraordinaires des autres pays. On y donnait le bal de Psyché, qui, depuis 20 ans, a sans cesse été représenté dans bien des circonstances différentes. L'escalier de l'opéra était garni de sentinelles russes. En entrant dans la salle, je regardai de tous les côtés pour découvrir un visage qui me fut connu. Et je n'aperçus que des uniformes étrangers. À peine quelques vieux bourgeois de Paris se montraient-ils encore au parterre, pour ne pas perdre leurs anciennes habitudes. Du reste, tous les spectateurs étaient changés. Le spectacle seul restait le même. Les décorations, la musique, la danse n'avaient rien perdu de leur charme, et je me sentais humilié de la grâce française prodiguée devant ses sabres et ses moustaches, comme s'il était du devoir des vaincus d'amuser encore les vainqueurs. Au théâtre français, les tragédies de Racine et de Voltaire étaient représentées devant des étrangers, plus jaloux de notre gloire littéraire qu'empressés à la reconnaître. L'élévation des sentiments exprimés dans les tragédies de Corneille n'avait plus de piédestal en France. On ne savait où se prendre pour ne pas rougir en les écoutant. Nos comédies, où l'art de la gaieté est porté si loin, divertissaient nos vainqueurs lorsqu'il ne nous était plus possible d'en jouir. Et nous avions presque honte des talents mêmes de nos poètes, quand ils semblaient comme nous enchaînés aux chars des conquérants. Aucun officier de l'armée française, on doit leur en savoir gré, ne paraissait au spectacle pendant que les troupes alliées occupaient la capitale. Ils se promenaient tristement sans uniforme, ne pouvant plus supporter leurs décorations militaires puisqu'ils n'avaient pu défendre le territoire sacré dont la garde leur était confiée. L'irritation qu'ils éprouvaient ne leur permettait pas de comprendre que c'était leur chef ambitieux, égoïste et téméraire qui les avait réduits à l'état où ils se trouvaient. La réflexion ne pouvait s'accorder avec les passions dont ils étaient agités. La situation du roi, revenant avec les étrangers, au milieu de l'armée qui devait les haïr, présentait des difficultés sans nombre. Il a fait individuellement tout ce que l'esprit et la volonté peuvent inspirer à un souverain qui veut plaire. Mais il avait affaire à des sentiments d'une nature trop forte pour que les moyens de l'ancien régime y puissent suffire. C'était de la nation qu'il fallait céder pour ramener l'armée. Examinons si le système adopté par les ministres de Louis XVIII pouvait atteindre à ce but. Chapitre 7 de la charte constitutionnelle donnée par le roi en 1814. Je me glorifie de rappeler ici que la déclaration signée par Louis XVIII à Saint-Ouen en 1814 contenait presque tous les articles garants de la liberté que M. Necker avait proposé à Louis XVI en 1789, avant que la révolution du 14 juillet eût éclaté. Cette déclaration ne portait pas la date des 19 ans de règne, dans lesquels consistait la question du droit divin ou du pacte constitutionnel. Le silence à cet égard était plein de sagesse, car il est manifeste que le gouvernement représentatif est inconciliable avec la doctrine du droit divin. Toutes les disputes des Anglais avec leur roi sont provenues de cette inconséquence. En effet, si les rois sont les maîtres absolus des peuples, ils doivent exiger les impôts et non les demander. Mais, s'ils ont quelque chose à demander à leurs sujets, il s'ensuit nécessairement qu'ils ont aussi quelque chose à leur promettre. D'ailleurs, le roi de France, étant remonté sur le trône en 1814, avec l'appui de la force étrangère, ses ministres auraient dû inventer l'idée du contrat avec la nation, du consentement de ses députés, afin de tout ce qui pouvait garantir et prouver le vœu des Français, quand même ces principes n'auraient pas été généralement reconnus en France. Il était fort à craindre que l'armée, qui avait prêté serment à Bonaparte, et qui avait combattu près de 20 ans sous lui, ne regardât comme nuls les serments demandés par les puissances européennes. Il importait donc de lier et de confondre les troupes françaises avec le peuple français, par toutes les formes possibles d'acquiescement volontaire. « Quoi, dira-t-on, vouliez-vous nous replonger dans l'anarchie des assemblées primaires ?» Nullement. Ce que l'opinion souhaitait, c'était l'abjuration du système sur lequel se fonde le pouvoir absolu. Mais l'on n'aurait point chicané le ministère de Louis XVIII sur le mode d'acceptation de la charte constitutionnelle. Il suffisait seulement alors qu'elle fût considérée comme un contrat et non comme un édit du roi. Car l'édit de Nantes de Henri IV a été aboli par Louis XIV. Et tout acte qui ne repose pas sur des engagements réciproques peut être révoqué par l'autorité dont il émane. Au lieu d'inviter au moins les deux chambres à choisir elles-mêmes les commissaires qui devaient examiner l'acte constitutionnel, les ministres les firent nommer par le roi. Très probablement, les chambres auraient élu les mêmes hommes. Mais c'est une des erreurs des ministres de l'Ancien Régime d'avoir envie de mettre l'autorité royale partout, tandis qu'il faut être sobre de ce moyen, dès qu'on n'en a pas un besoin indispensable. Tout ce qu'on peut laisser faire à la nation, sans qu'il en résulte aucun désordre, accroît les lumières, fortifie l'esprit public et met plus d'accord entre le gouvernement et le peuple. Le 4 juin 1814, le roi vint déclarer aux deux chambres la charte constitutionnelle. Son discours était plein de dignité, d'esprit et de convenance. Mais son chancelier commença par appeler la charte constitutionnelle une ordonnance de réformation. Quelle faute ! N'était-ce pas faire sentir que ce qui était donné par le roi pouvait être retiré par ses successeurs ? Ce n'est pas tout encore. Dans le préambule de la charte, il était dit que l'autorité tout entière résidait dans la personne du roi, mais que souvent l'exercice en avait été modifié par les monarques prédécesseurs de Louis XVIII, tels que Louis le Gros, Philippe le Bel, Louis XI, Henri II, Charles IX et Louis XIV. Certes, les exemples étaient mal choisis, car sans parler de Louis XI et de Charles IX, l'ordonnance de Louis le Gros, en 1127, relevait le tiers-état des villes de la servitude. Il y a peu longtemps que la nation française a oublié ce bienfait. Et, quant à Louis XIV, ce n'est pas de son nom que l'on peut se servir lorsqu'il est question de liberté. À peine entendis-je ces paroles, que les plus grands maux me parurent à craindre pour l'avenir, car de si indiscrètes prétentions exposaient le trône encore plus qu'elles ne menaçaient les droits de la nation. Elle était alors si forte dans l'intérieur qu'il n'y avait rien à redouter pour elle. Mais c'est précisément parce que l'opinion était toute puissante qu'on ne pouvait s'empêcher de s'irriter contre des ministres qui compromettaient ainsi l'autorité tutélaire du roi, sans avoir aucun appui réel pour la soutenir. La charte était précédée de l'ancienne formule usitée dans les ordonnances. Nous accordons, nous faisons concession et octroi, etc. Mais le nom même de charte, consacré par l'histoire d'Angleterre, rappelle les engagements que les barons firent signer au roi Jean en faveur de la nation et d'eux-mêmes. Or, comment les concessions de la couronne pourraient-elles devenir la loi fondamentale de l'État si elles n'étaient que le bienfait d'un monarque ? À peine la charte constitutionnelle fut-elle lue, que le chancelier se hâta de demander aux membres des deux chambres de jurer d'y être fidèles. Qu'aurait-on dit alors de la réclamation d'un sourd qui se serait levé pour s'excuser de prêter serment à une constitution dont il n'aurait pas entendu un seul article? Eh bien, ce sourd, c'était le peuple français. Et c'est parce que ses représentants avaient pris l'habitude d'être muets sous Bonaparte qu'ils ne se permirent aucune objection alors. Aussi, beaucoup de ceux qui, le 4 juin, jurèrent d'obéir à tout un code de loi qu'ils n'avaient pas seulement eu le temps de comprendre, ne se dégagèrent-ils que trop facilement, 10 mois après, d'une promesse aussi légèrement donnée? C'était un spectacle bien singulier que la réunion, en présence du roi, des deux assemblées, le Sénat et le corps législatif, qui avait servi si longtemps Bonaparte. Les sénateurs et les députés portaient encore le même uniforme que l'empereur Napoléon leur avait donné. Ils faisaient les mêmes révérences, en se tournant vers l'Orient au lieu de l'Occident, mais ils saluaient tout aussi bas que de coutume. La cour de la maison de Bourbon était dans les galeries, arborant des mouchoirs blancs et criant « Vive le roi !» de toutes ses forces. Les hommes du régime impérial, sénateurs, maréchaux et députés, se trouvaient cernés par ces transports. Et ils avaient tellement l'habitude de la soumission que tous les sourires habituels de leur physionomie servaient, comme d'ordinaire, à l'admiration du pouvoir. Mais qui connaissait le cœur humain devait-il se fier à de telles démonstrations? Et ne valait-il pas mieux réunir des représentants librement élus par la France que des hommes qui ne pouvaient alors avoir d'autres mobiles que des intérêts et non des opinions? Quoique, à plusieurs égards, la charte dût contenter le vœu public, elle laissait cependant beaucoup de choses à désirer. C'était une expérience nouvelle, tandis que la Constitution anglaise a subi l'épreuve du temps. Et, quand on compare la charte d'un pays avec la Constitution de l'autre, tout est à l'avantage de l'Angleterre, soit pour le peuple, soit pour les grands, soit même pour le roi, qui ne peut se séparer de l'intérêt général dans un pays libre. Le parti royaliste inconstitutionnel, dont il faut sans cesse relever les paroles, puisque c'est surtout ainsi qu'il agit, n'a cessé de répéter que, si le roi s'était conduit comme Ferdinand VII, s'il avait établi purement et simplement l'ancien régime, il n'aurait eu rien à craindre de ses ennemis. Le roi d'Espagne pouvait disposer de son armée. Celle de Louis XVIII ne lui était point attachée. Les prêtres aussi sont l'armée succursale du roi d'Espagne. En France, l'ascendant des prêtres n'existe presque plus. Enfin, tout est en contraste dans la situation politique et morale des deux pays. Et qui veut les rapprocher se livre à son humeur, sans considérer en rien les éléments dont l'opinion et la force sont composés. Mais, dira-t-on encore, Bonaparte savait pourtant séduire ou dominer l'esprit d'opposition. Rien ne serait plus fatal pour un gouvernement quelconque, en France, que d'imiter Bonaparte. Ses exploits guerriers étaient de nature à produire une funeste illusion sur son despotisme. Encore Napoléon n'a-t-il pu résister à son propre système, et sûrement aucune autre main ne saurait manier la massue qui est retombée sur sa tête. En 1814, les Français semblaient plus faciles à gouverner qu'à aucune autre époque de la Révolution, car ils étaient assoupis par le despotisme et lassés des agitations auxquelles le caractère inquiet de leur maître les avait condamnés. Mais, loin de croire à cet engourdissement trompeur, il aurait fallu, pour ainsi dire, les prier de vouloir être libres, afin que la nation pût servir d'appui à l'autorité royale contre l'armée. Il importait de remplacer l'enthousiasme militaire par les intérêts politiques, afin de donner un aliment à l'esprit public qui en a toujours besoin en France. Mais de tous les jougs, le plus impossible à rétablir, c'était l'ancien. Et l'on doit avant tout se garder de ce qui le rappelle. Il y a peu de Français qui sachent encore très bien ce que c'est que la liberté. Et certes, Bonaparte ne leur a pas appris à s'y connaître. Mais toutes les institutions qui pourraient blesser l'égalité produisent en France la même fermentation que le retour du papisme causait autrefois en Angleterre. La dignité de la pairie diffère autant de la noblesse par généalogie que la monarchie constitutionnelle de la monarchie fondée sur le droit divin. Mais c'était une grande erreur de la charte que de conserver tous les titres des nobles, soit anciens, soit modernes. On ne rencontrait, après la Restauration, que des barons et des comtes de la façon de Bonaparte, de celle de la cour, ou quelquefois même de la leur, tandis que les pairs, seuls, devaient être considérés comme les dignitaires du pays, afin de détruire la noblesse féodale et d'y substituer une magistrature héréditaire qui, ne s'étendant qu'à l'aîné de la famille, n'établit point dans l'État des distinctions de sang et de race. S'ensuit-il néanmoins de ces observations que l'on fut malheureux en France sous la première Restauration? La justice, et même la bonté la plus parfaite, n'était-elle pas pratiquée envers tout le monde? Sans doute, et les Français se repentiront longtemps de ne l'avoir pas alors assez senti. Mais, s'il y a des fautes qui doivent irriter contre ceux qui les font, il y en a qui vous inquiètent pour le sort d'un gouvernement que l'on estime. Et de ce nombre étaient celles que commettaient les agents de l'autorité. Toutefois, les amis de la liberté les plus sincèrement attachés à la personne du roi voulaient une garantie pour l'avenir, et leur désir à cet égard était juste et raisonnable. Chapitre 8. De la conduite du ministère pendant la première année de la Restauration. Quelques publicistes anglais prétendent que l'histoire démontre l'impossibilité de faire adopter sincèrement une monarchie constitutionnelle à une race de princes qui auraient joui pendant plusieurs siècles d'une autorité sans bornes. Les ministres n'avaient, en 1814, qu'une manière de réfuter cette opinion. C'était de manifester assez en toute chose la supériorité d'esprit du roi pour que l'on fût convaincu qu'il cédait volontairement aux lumières de son siècle. Parce que, s'il y perdait comme souverain, il y gagnait comme homme éclairé. Le roi lui-même a produit à son retour cet effet salutaire sur ceux qui ont eu des rapports avec lui. Mais plusieurs de ses ministres semblait prendre à tâche de détruire ce grand bien produit par la sagesse du monarque. Un homme élevé ensuite à une dignité éminente avait dit, dans une adresse au roi, au nom du département de la Seine inférieure, que la Révolution n'était qu'une rébellion de 25 années. En prononçant ces paroles, il s'était rendu incapable d'être utile à la chose publique. Car, si cette révolution n'était qu'une révolte, pourquoi donc consentir à ce qu'elle amène le changement de toutes les institutions politiques, changement consacré par la charte constitutionnelle? Pour être conséquent, il aurait fallu répondre à cette objection que la charte était un mal nécessaire auquel on devait se résigner, tant que le malheur des temps l'exigeait. Or, comment une telle manière de voir pouvait-elle inspirer de la confiance? Comment pouvait-elle donner aucune stabilité, aucune force à un ordre de choses nominalement établi? un certain parti considérait la Constitution comme une maison de bois dont il fallait supporter les inconvénients en attendant que l'on rebâtît la véritable demeure, l'Ancien Régime. Les ministres parlaient en public de la charte avec le plus grand respect, surtout lorsqu'ils proposaient les mesures qui la détruisaient pièce à pièce. Mais, en particulier, ils souriaient au nom de cette charte comme si c'était une excellente plaisanterie que les droits d'une nation. Quelle frivolité, grand Dieu, et sur les bords d'un abîme! Se peut-il qu'il y ait dans les habitudes des cours quelque chose qui perpétue la légèreté d'esprit jusque dans l'âge avancé? Il en résulte souvent de la grâce, mais elle coûte bien cher dans les temps sérieux de l'histoire. La première proposition que l'on soumit au corps législatif fut la suspension de la liberté de la presse. Le ministre chicana sur les termes de la charte, qui étaient les plus clairs du monde, et les journaux furent remis à la censure. Si l'on croyait que les gazettes ne pouvaient être encore abandonnées à elles-mêmes, au moins fallait-il que le ministère, s'étant rendu responsable de ce qu'elles contenaient, soumis la direction de ces journaux, devenus tous officiels par le seul fait de la censure, à des esprits sages qui ne permissent dans aucun cas la moindre insulte à la nation française. Comment un parti évidemment le plus faible, à un degré que le fatal retour de Bonaparte n'a que trop manifesté, comment ce parti prend-il envers tant de millions d'hommes le ton prédicateur d'un jour de jeûne? Comment leur déclare-t-il à tous qu'ils sont des criminels de divers genres, de diverses époques, et qu'ils doivent expier, par l'abandon de toute prétention à la liberté, les maux qu'ils ont causés en s'efforçant de l'obtenir? Je crois qu'en vérité, les écrivains de ce parti auraient admis seulement pour un jour le gouvernement représentatif, s'il eût consisté dans quelques députés en robe blanche qui seraient venus, la corde au cou, demander grâce pour la France. D'autres, d'un air plus doux, disaient, comme du temps de Bonaparte, qu'il fallait ménager les intérêts de la Révolution pourvu qu'on anéantît ses principes. Ce qui voulait dire simplement qu'on avait encore peur des intérêts et qu'on espérait les affaiblir en les séparant des principes. Est-ce ainsi que l'on doit traiter 25 millions d'hommes qui naguère avaient vaincu l'Europe? Les étrangers, malgré, peut-être même à cause de leur victoire, montraient beaucoup plus d'égard à la nation française que ces journalistes qui, sous tous les gouvernements, avaient été les pourvoyeurs de sophismes pour le compte de la force. Ces gazettes, dont le ministère était pourtant censé dicter l'esprit, attaquaient tous les individus, morts ou vivants, qui avaient proclamé les principes mêmes de la charte constitutionnelle. Il nous fallait supporter que les noms vénérés, qui ont un autel dans notre cœur, fussent constamment insultés par les écrivains de parti, sans que nous puissions leur répondre, sans que nous puissions leur dire une seule fois combien ces illustres tombeaux sont placés au-dessus de leurs indignes atteintes, et quels champions nous avons dans l'Europe et dans la postérité pour le soutien de notre cause. Mais que faire quand toutes les discussions sont commandées d'avance, et que nul accent de l'âme ne peut pénétrer à travers ces écrits assermentés à la bassesse? Tantôt, ils insinuaient les avantages de l'exil, ou discutaient les inconvénients de la liberté individuelle. J'ai entendu proposer que le gouvernement consentît à la liberté de la presse, à condition qu'on lui accordât la détention arbitraire, comme si l'on pouvait écrire quand on est menacé d'être puni sans jugement pour avoir écrit. Lorsque les partisans du despotisme se servent des baïonnettes, ils font leur métier. mais lorsqu'ils emploient des formes philosophiques pour établir leur doctrine, ils se flattent en vain de tromper. On a beau priver les peuples de la lumière et de la publicité, ils n'en sont que plus défiants, et toutes les profondeurs du machiavélisme ne sont que de mauvais jeux d'enfants, à côté de la force magique et naturelle, tout ensemble, de la parfaite sincérité. Il n'y a point de secret entre les gouvernements et le peuple. Ils se comprennent, ils se connaissent. On peut prendre sa force dans telle ou telle partie, mais se flatter d'amener à pas de loup les institutions contre lesquelles l'opinion est en garde, c'est n'avoir aucune idée de ce qu'est devenu le public de notre temps. Une suite de résolutions rétablissait chaque chose comme jadis. On entourait la charte constitutionnelle de manière à la rendre un jour tellement étrangère à l'Assemblée qu'elle tomba, pour ainsi dire, d'elle-même, étouffée par les ordonnances et les étiquettes. Tantôt, on proposait de réformer l'Institut, qui a fait la gloire de la France éclairée, et d'imposer de nouveau à l'Académie française ses vieux éloges du cardinal de Richelieu et de Louis XIV, exigés depuis plus d'un siècle. Tantôt, on décrétait d'anciennes formules de serment dans lesquelles il n'était pas question de la charte. Et, quand elles excitaient des plaintes, on vous citait l'exemple de l'Angleterre, car elle faisait loi contre la liberté, mais jamais en sa faveur. Néanmoins, il était très aisé, dans cette occasion comme dans toutes, de réfuter l'exemple de l'Angleterre par un argument ainsi conçu. Le roi d'Angleterre, jurant lui-même de maintenir les lois constitutionnelles du royaume, les fonctionnaires publics ne prêtent serment qu'à lui. Mais vaut-il la peine de raisonner, quand tout le but des adversaires est d'avoir des mots pour cacher leurs pensées? L'institution de la noblesse créée par Bonaparte n'était vraiment bonne qu'à montrer le ridicule de cette multitude de titres sans réalité, auxquels une vanité puérile peut seule attacher de l'importance. Dans la pairie, le fils aîné hérite des titres et des droits de son père, mais le reste de la famille doit rentrer dans la classe des citoyens. Et comme nous n'avons cessé de le répéter, ce n'est point une noblesse de race, mais une magistrature héréditaire, à laquelle sont attachés les honneurs, à cause de l'utilité dont les pères sont à la chose publique, et non en conséquence de l'héritage de la conquête, héritage qui constitue la noblesse féodale. Les anoblissements que le chancelier de France envoyait de toutes parts en 1814 portaient nécessairement atteinte au principe de la liberté politique. Car que signifie anoblir, si ce n'est déclarer que le tiers-État, c'est-à-dire la nation, est roturière, qu'il n'est pas honorable d'être simple citoyen, et qu'il faut relever de cet abaissement les individus qui ont mérité d'en sortir. Or, ces individus, d'ordinaire, c'étaient ceux qu'on savait enclins à sacrifier les droits de la nation aux privilèges de la noblesse. Le goût des privilèges, dans ceux qui les possèdent, en vertu de leur naissance, a du moins quelque grandeur. Mais qu'y a-t-il de plus subalterne que ces hommes du tiers-État s'offrant pour servir de marchepied à ceux qui veulent monter sur leur tête? Les lettres de noblesse datent en France de Philippe le Hardi. Elles avaient pour but principal l'exemption des impôts que le tiers-État payait seul. Mais les anciens nobles de France ne regardaient jamais comme leurs égaux ceux qui n'étaient point nobles d'origine. Et à cet égard, ils avaient raison, car la noblesse perd tout son empire sur l'imagination dès qu'elle ne remonte pas dans la nuit des temps. Ainsi donc, sur le terrain de la liberté comme sur celui de l'aristocratie, les lettres de noblesse sont également à rejeter. Écoutons ce qu'en dit l'abbé de Velly, historien très sage et reconnu pour tel non seulement par l'opinion publique, mais par les censeurs royaux de son temps. Ce qu'il y a de plus remarquable dans les lettres d'annoblissement est qu'elles exigent en même temps une finance pour le monarque, qui doit être indemnisé des subsides dont la lignée du nouveau noble est affranchie, et une aumône pour le peuple, qui se trouve surchargé par cette exemption. C'est la Chambre des comptes qui décide de toutes les deux. Le roi peut remettre l'une et l'autre, mais il remet rarement l'aumône, parce qu'elle regarde les pauvres. On ne doit pas oublier ici la réflexion d'un célèbre jurisconsulte. Toutefois, dit-il, à bien entendre, cette abolition de roture n'est qu'une effaçure dont la marque demeure. Elle semble même plutôt une fiction qu'une vérité, le prince ne pouvant par effet réduire l'être au non-être. C'est pourquoi nous sommes si curieux en France de cacher le commencement de notre noblesse, afin de la faire remonter à cette première espèce de gentillesse ou générosité immémoriale qui seule constituait autrefois les nobles. On s'étonne quand on lit tout ce qui a été écrit en Europe depuis la découverte de l'imprimerie et même tout ce qu'on cite des anciennes chroniques, combien les principes des Amis de la Liberté sont anciens dans chaque pays. Combien, à travers les superstitions de certaines époques, ils percent d'idées justes dans ceux qui ont publié de quelque manière leurs réflexions indépendantes. Nous avons certainement pour nous la raison de tous les temps, ce qui ne laisse pas d'être une légitimité comme une autre. La religion étant un des grands ressorts de tout gouvernement, la conduite à tenir à cet égard devait occuper sérieusement les ministres. Et le principe de la charte, qu'ils devaient maintenir avec le plus de scrupules, c'était la tolérance universelle. Mais, parce qu'il existe encore dans le midi de la France quelques traces du fanatisme qui a si longtemps ensanglanté ses provinces, parce que l'ignorance de quelques-uns de leurs habitants est égale à leur vivacité, fallait-il leur permettre d'insulter les protestants sur les places publiques par des chansons sanguinaires, annonçant les assassinats qui depuis ont été commis? Les acquéreurs de biens du clergé ne devaient-ils pas frémir à leur tour quand ils voyaient les protestants du Midi désignés au massacre? Les paysans qui ne payent plus ni les dîmes ni les droits féodaux ne voyaient-ils pas aussi leur cause dans celle des protestants, dans celle enfin des principes de la Révolution reconnus par le roi lui-même, mais éludés constamment par les ministres? On se plaint avec raison en France de ce que le peuple est peu religieux. Mais si l'on veut se servir du clergé pour ramener l'ancien régime, on est certain d'accroître l'incrédulité par l'irritation. Que pouvait-on avoir en vue, par exemple, en substituant à la fête de Napoléon, le 15 août, une procession pour célébrer le vœu de Louis XIII, qui consacre la France à la Vierge? Il faut convenir que cette nation française a terriblement d'âpreté guerrière pour qu'on la soumette à une cérémonie si candide. Les courtisans suivent cette procession dévotement pour obtenir des places, comme les femmes mariées font des pèlerinages pour avoir des enfants. Mais quel bien fait-on à la France en voulant mettre en honneur d'anciens usages qui n'ont plus d'influence sur le peuple? C'est l'accoutumer à se jouer de la religion, au lieu de lui rendre l'habitude de la révérer. Vouloir donner de la puissance à des superstitions qui n'en ont plus, c'est imiter Don Pedro de Portugal, qui, lorsqu'il fut sur le trône, retira du tombeau les restes d'Ignès de Castro pour les faire couronner. Elle n'en fut pas plus reine pour cela. Combien ces remarques sont loin de s'appliquer aux funérailles de Louis XVI, célébrées à Saint-Denis le 21 janvier. Personne n'a pu voir ce spectacle sans émotion. le cœur, s'associer tout entier aux souffrances de cette princesse, qui rentrait dans les palais, non pour jouir de leur splendeur, mais pour honorer les morts et rechercher leurs sanglants débris. On a dit que cette cérémonie était impolitique, mais elle causait un tel attendrissement que le blâme ne pouvait s'y attacher. L'admission à tous les emplois est l'un des principes auxquels les Français tiennent le plus. Mais, bien que ce principe fût consacré par la charte, les choix des ministres, dans la carrière diplomatique surtout, étaient exclusivement bornés à la classe de l'Ancien Régime. On introduisait dans l'armée trop d'officiers généraux qui n'avaient jamais fait la guerre que dans les salons. Encore, n'y avaient-ils pas toujours été vainqueurs? Enfin, il était manifeste que l'on n'avait goût qu'à redonner les places aux courtisans d'autrefois. Et rien ne blessait autant les hommes du tiers-état qui se sentaient du talent ou qui voulaient développer l'émulation de leurs fils. Les finances, qui agissent sur le peuple d'une façon immédiate, étaient gouvernées sous quelque rapport avec habileté. Mais la promesse qui avait été faite de supprimer les droits réunis ne fut point accomplie, et la popularité de la Restauration en a beaucoup souffert. Enfin, le devoir du ministère était avant tout d'obtenir que les princes ne se mêlassent en rien des affaires publiques, si ce n'est dans des emplois responsables. Que dirait-on en Angleterre si les fils ou les frères du roi siégeaient dans le conseil, votaient pour la guerre et la paix, enfin participaient au gouvernement, sans être soumis au premier principe de ce gouvernement, la responsabilité, dont le roi seul est excepté? La place convenable pour les princes, c'est la chambre des pairs. C'est là qu'ils devaient prêter serment à la charte constitutionnelle. Ils l'ont prêté, ce serment, lorsque Bonaparte s'avançait déjà sur Paris. N'était-ce pas reconnaître qu'ils avaient négligé jusqu'alors un grand moyen de captiver la confiance du peuple? La liberté constitutionnelle est, pour les princes de la maison de Bourbon, la parole magique qui peut seule leur ouvrir la porte du palais de leurs ancêtres. L'art qu'ils pourraient mettre à se dispenser de la prononcer serait bien facilement remarqué, et ce mot, comme les images de Brutus et de Cassius, attirerait d'autant plus l'attention qu'on aurait pris plus de soin pour l'éviter. Il n'y avait point d'accord entre les ministres, point de plan reconnu par tous. Le ministère de la police, détestable institution en soi-même, ne savait rien et ne s'occupait de rien. Car, pour peu qu'il y ait des lois, que peut faire un ministre de la police? Sans avoir recours à l'espionnage, aux arrestations, enfin à tout l'abominable édifice d'arbitraire que Bonaparte a fondé, les hommes d'État doivent savoir où est la direction de l'opinion publique et de quelle manière on peut marcher dans son sens. Il faut ou commander à une armée qui vous obéisse comme une machine, ou prendre sa force dans les sentiments de la nation. La science de la politique a besoin d'un Archimède qui lui fournisse son point d'appui. Monsieur de Talleyrand, à qui l'on ne saurait contester une profonde connaissance des partis qui ont agité la France, étant au congrès de Vienne, ne pouvait influer sur la marche des affaires intérieures. M. de Blacas, qui avait montré au roi, dans son exil, l'attachement le plus chevaleresque, inspirait aux gens de la cour ces anciennes jalousies de l'œil de bœuf qui ne laissent pas un moment de repos à ceux qu'on croit en faveur auprès du monarque. Et cependant, M. de Blacas était peut-être, de tous les hommes revenus avec Louis XVIII, celui qui jugeait le mieux la situation de la France, quelque nouvelle qu'elle fût pour lui. Mais que pouvait un ministère constitutionnel en apparence et contre-révolutionnaire au fond? un ministère en général composé d'honnêtes gens, chacun à sa manière, mais qui se dirigeait par des principes opposés, quoique le premier désir de chacun fût de plaire à la cour. Tout le monde disait « cela ne peut durer », bien qu'alors la situation de tout le monde fût douce. Mais le manque de force, c'est-à-dire de base durable, inquiétait les esprits. Ce n'est pas la force arbitraire qu'on désirait, car elle n'est qu'une convulsion dont il résulte toujours, tôt ou tard, une réaction funeste. Tandis qu'un gouvernement qui s'établit sur la vraie nature des choses va toujours en s'affermissant. Comme on voyait le danger, sans précisément se rendre compte du remède, quelques personnes eurent la funeste idée de proposer pour le ministère de la guerre le maréchal Soult, qui venait de commander avec succès les armées de Bonaparte. Il avait su gagner le cœur de certains royalistes en professant la doctrine du pouvoir absolu, dont il avait fait un long usage. Les adversaires de tout principe constitutionnel se sentent bien plus d'analogie avec les bonapartistes qu'avec les amis de la liberté. Parce qu'entre les deux parties, il n'y a que le nom du maître à changer pour être d'accord. Mais les royalistes ne s'apercevaient pas que ce nom était tout, car le despotisme ne pouvait s'établir alors avec Louis XVIII, soit à cause de ses qualités personnelles, soit parce que l'armée n'était pas disposée à s'y prêter. Le véritable parti du roi devait être l'immense majorité de la nation qui veut une constitution représentative. Il fallait donc se garder de toute alliance avec les bonapartistes parce qu'ils ne pouvaient que perdre la monarchie des Bourbons, soit qu'ils les servissent de bonne foi, soit qu'ils voulussent les tromper. Les amis de la liberté étaient au contraire les alliés naturels dont le parti du roi devait s'appuyer. Car du moment que le roi donnait une charte constitutionnelle, il ne pouvait employer avec avantage que ceux qui en professaient les principes. Le maréchal Soult demanda qu'un monument fût élevé aux émigrés de Quiberon, lui qui, depuis 20 ans, avait combattu pour la cause opposée à la leur. C'était désavouer toute sa vie passée, et cette abjuration cependant charma beaucoup de royalistes. Mais en quoi consiste la force d'un général dès l'instant qu'il perd la faveur de ses compagnons d'armes? Quand on oblige un homme du parti populaire à sacrifier sa popularité, il n'est plus bon à rien au nouveau parti qu'il embrasse. Les royalistes persévérants inspireront toujours plus d'estime que les bonapartistes convertis. On croyait captiver l'armée en nommant le maréchal Soult ministre de la guerre. On se trompait. La grande erreur des personnes élevées dans l'ancien régime, c'est d'attacher une trop grande importance aux chefs en tout genre. Les masses sont tout aujourd'hui, les individus peu de choses. Si les maréchaux perdent la confiance de l'armée, ils se présentent aussitôt des généraux non moins habiles que leurs supérieurs. Ces généraux sont-ils renversés à leur tour? Il se trouve des soldats capables de les remplacer. L'on en peut dire autant dans la carrière civile. Ce ne sont pas les hommes, mais les systèmes qui ébranlent ou qui garantissent le pouvoir. Napoléon, je l'avoue, est une exception à cette vérité. Mais, outre que ses talents sont extraordinaires, encore a-t-il cherché, dans les différentes circonstances où il s'est trouvé, à captiver l'opinion du moment, à séduire les passions du peuple, lorsqu'il voulait la servir. Le maréchal Soult ne s'aperçut pas que l'armée de Louis XVIII devait être conduite par de tout autres principes que celle de Napoléon. Il fallait la détacher par degrés de ce besoin de la guerre, de cette frénésie de conquête avec laquelle on avait obtenu tant de succès militaires, et fait un mal si cruel au monde. Mais le respect de la loi, le sentiment de la liberté, pouvait seul opérer ce changement. Le maréchal Soult, au contraire, croyait que le despotisme était le secret de tout. Trop de gens se persuadent qu'ils seront obéis comme Bonaparte, en exilant les uns, en destituant les autres, en frappant du pied, en fronçant le sourcil, en répondant avec hauteur à ceux qui s'adressent respectueusement à eux, enfin, en pratiquant tous ces arts de l'impertinence que les gens en place apprennent en 24 heures, mais dont ils se repentent souvent toute leur vie. La volonté du maréchal échoua contre les obstacles sans nombre, dont il n'avait pas la moindre idée. Je suis persuadé que c'est sans fondement qu'on l'a soupçonné d'avoir trahi. En général, la trahison chez les Français n'est que le résultat de la séduction momentanée du pouvoir, et presque jamais ils ne sont capables de la combiner d'avance. Mais un émigré de Koblenz n'aurait pas commis autant de fautes envers l'armée française s'il eût été chargé du même emploi, car, du moins, il aurait ménagé ses adversaires, tandis que le maréchal Soult frappait sur ses anciens subordonnés, sans se douter qu'il y avait, depuis la chute de Bonaparte, quelque chose de semblable à une opinion, à une législation, enfin à une résistance possible. Les courtisans se persuadaient que le maréchal Soult était un homme supérieur parce qu'il disait qu'on doit gouverner avec un sceptre de fer. Mais où forger ce sceptre quand on n'a pour soi ni l'armée ni le peuple? En vain répète-t-on qu'il faut faire rentrer dans l'obéissance, soumettre, punir, etc. Toutes ces maximes n'agissent pas d'elles-mêmes. Et l'on peut les prononcer du ton le plus rude, sans être plus puissant pour cela. Le maréchal Soult avait été très habile dans l'art d'administrer un pays conquis. Mais, en l'absence des étrangers, la France n'en était pas un.